Lors d'une précédente émission, nous avons déjà reçu notre invité d'aujourd'hui. Malheureusement, suite à des problèmes techniques, nous n'avions pu terminer notre interview dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous recevons à nouveau Laurent Chemla, cofondateur de Gandhi, membre du comité stratégique de la Quadrature du Net, voleur qui a fait sa confession, pâtissier dans son garage réputé.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Laurent.
Salut.
Excusez-moi, je suis très intimidée et du coup mon côté groupie ressort. Alors, tu es un administrateur système réputé, mais d'où viennent tes talents pour la pâtisserie?
En très grande majorité de ce que je peux trouver sur Internet, de vidéos, de recettes et autres. Mais je suis quand même tombé dedans quand j'étais tout petit parce que mon père, qui cuisinait beaucoup, n'aimait pas du tout la pâtisserie. Et donc, vers mes 10 ans, m'avait offert un bouquin de pâtisserie pour les enfants en me disant « Voilà, maintenant, c'est toi qui fais les gâteaux et les desserts. »
C'est astucieux.
C'est une façon de faire, oui.
Mais c'est étonnant, la pâtisserie. Enfin, du coup... Oui. Allons continuer, excusez-moi. Alors, dans la dernière interview, nous avons parlé de messagerie privée. Mais qu'est-ce qui est plus dur que de rendre utilisables des communications chiffrées? Monter une mayonnaise ou cuire un caramel?
Alors, l'un comme l'autre sont relativement très faciles par rapport à convaincre des gens qui n'en veulent pas, enfin qui n'en comprennent pas l'intérêt d'utiliser du chiffrement partout. Mais c'est quand même quelque chose de... Il m'est arrivé une fois, je crois, dans toute ma longue carrière culinaire, de rater une mayonnaise.
Et vous savez pourquoi?
Alors non, et en plus c'était très gênant parce qu'on était en Tunisie avec mon oncle qui, lui, était aussi un cuisinier familial extrêmement réputé. Et que ni lui ni moi n'avons réussi, alors que c'était absolument inimaginable, hein, devant toute la famille. Et voilà, et je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'était pas dans notre cuisine, on n'avait pas notre huile habituelle, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il nous a fallu une heure pour réussir la mayonnaise avec le dernier œuf du paquet de vin, quoi. Et c'était quelque chose d'assez surréaliste. Et pareil pour les caramels, c'est quand même le truc un peu ratable, à la limite on peut les cramer, mais c'est à peu près tout ce qui peut se passer avec un caramel, quoi. Ça n'est jamais que du sucre chaud.
Il y a différents stades de caramel, non?
Oui, enfin... bien sûr, oui, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais de là, rater un caramel, c'est quand même difficile, quoi.
Alors, j'ai vu que vous faisiez des macarons. Alors, pour réussir les macarons, est-ce que c'est surtout de la pratique ou de l'équipement?
C'est surtout de la chance, je crois.
Ah bon?
Mais... comme souvent quand je fais de la pâtisserie, c'est venu de la demande de gens autour de moi. Il faut savoir un truc, j'aime beaucoup la pâtisserie. Je fais de la cuisine et de la pâtisserie, je fais une vraie distinction entre les deux. Ça n'a rien à voir, y compris en termes de pratique habituelle. C'est-à-dire en cuisine, on peut être très créatif, on invente plein de choses tout le temps. En pâtisserie, on respecte assez largement les recettes et les techniques. Et donc c'est très différent dans la tête et dans ce qu'on peut penser autour. Et il y a quand même un truc avec la pâtisserie, c'est que je déteste les trucs sucrés. Je ne mange rien de sucré, jamais. Du coup, forcément, pour moi, la pâtisserie reste un truc assez miraculeux, au sens où ça marche, mais je ne peux pas le goûter. Et forcément, ça vient tout le temps de la demande de quelqu'un autour de moi. Donc les macarons, typiquement, c'est venu d'une table ouverte du samedi soir, où quelqu'un m'a dit « Ouais, t'as fait des meringues, mais je suis sûr que t'arriverais pas à faire des macarons, parce que déjà, moi, je rate les meringues et ça m'énerve, alors les macarons, c'est beaucoup plus dur. » Du coup, forcément, la semaine suivante, j'ai voulu faire des macarons, voilà. Et je les ai réussis.
Et c'était la première fois ?
Eh oui.
À quoi ? Non.
Mais si. Mais c'est du bol, hein. C'est pour ça que je parle de chance.
Ah oui, c'est sûr. J'étais même admirative de la façon de dresser, comment vous avez dressé les macarons.
Ah non, mais depuis, j'en fais tellement que, bon, je sais pas, c'est à la mode, les macarons, tout le monde aime ça, et donc j'arrête pas d'en faire parce que tout le monde m'en demande. La semaine dernière, j'ai ramené, je crois, 250 macarons à Paris. J'avais même pas quitté la gare de Lyon, j'en avais déjà 150 de moins dans mon sac parce que ma sœur était venue m'attendre en tête de quai. Donc, les macarons, c'est devenu presque... Bon, ça m'amuse beaucoup moins maintenant, c'est devenu presque un travail, quoi, c'est pas drôle. Mais bon, c'est pour ça que du coup, j'essaye de... Pas d'inventer des nouvelles recettes parce que la technique est un peu tout le temps la même et que les parfums, j'ai arrêté d'en inventer parce que tout le monde me demande tout le temps les mêmes.
Ah, c'est-à-dire ?
Bah, citron d'abord, caramel au beurre salé ensuite, c'est les deux têtes d'affiche tout le temps. C'est... J'ai beau rajouter des fruits, des framboises, du cassis, du chocolat, des machins autour. Les gens les mangent parce que c'est bon, mais ils préfèrent le caramel au beurre salé et le citron, c'est comme ça.
Ah, c'est étonnant.
Non, le citron, de ce qu'on m'a dit, c'est un goût de tarte au citron et le caramel au beurre salé, c'est... Voilà,
il faut absolument qu'on goûte les macarons, Xavier.
Donc voilà, du coup, je m'amuse effectivement avec les présentations. J'essaie de trouver d'autres centres d'intérêt que le macaron seulement, parce que le macaron lui-même, maintenant, il m'amuse beaucoup moins, forcément.
Et les macarons salés, ça vous parle?
Alors, j'ai testé des trucs, j'ai fait des macarons, même au foie gras, des choses comme ça. Ça marche, hein, c'est pas mauvais, mais ça fonctionne pas si bien que ça, je trouve.
Ah, parce que c'est peut-être trop sucré
Même pas à mon goût, hein, quand je regarde. Ce qui m'intéresse dans la bouffe, c'est pas tant manger, hein, c'est regarder les gens manger, les surprendre, leur apporter quelque chose, quoi. C'est le côté rigolo, c'est le partage là-dedans. Donc c'est plus en regardant les gens manger des macarons salés que je m'aperçois que ça fonctionne pas si bien. C'est pas un super kiff. Une boîte de macarons sucrés, elle part en 10 minutes. Une boîte de macarons salés, elle va durer tout le repas. Bon.
Durer le plaisir.
Ouais, non, ça marche pas. Il y a plein de plats sucrés salés qui fonctionnent, mais pas le macaron.
Pourtant, il y a le macaron foie gras à Toulouse, ça marche. Hein. Enfin, ça fait partie de la Sainte Trinité. Avec le banoffee, le morito et le foie gras. Ah oui, ça vient, tu... est-ce que tu as un four spécial? L'as-tu construit toi-même en bon luxien?
Alors, non, mais j'ai ramé avant d'en trouver un qui soit à peu près comme je voulais, c'est-à-dire dont la température respecte ce que je lui demande et qui soit à peu près uniforme. Sinon, on a les trois quarts des macarons qui sont explosés. Et donc, à Nîmes, j'ai un vieux four neuf qui a toujours bien fonctionné. Et quand j'ai voulu acheter le même pour l'appart à Paris, je me suis aperçu que le neuf avait été depuis racheté par je ne sais quelle autre marque. Et que la qualité n'était plus la même, et j'ai ramé jusqu'à trouver un truc allemand qui s'appelle Cooper Busch, et qui a à peu près les mêmes qualités. Hein. Donc, voilà. Mais non, c'est des fours du commerce, mais c'est pas le four que tout le monde s'achète, parce que voilà, je voulais qu'il respecte un petit peu les choses que je mets dedans.
C'est-à-dire avec la température précise.
Ouais, là, je sais pas, j'ai fait cuire un jambon, le jambon, il doit cuire à 80 degrés.
Ah oui, 80, c'est très précis, ça.
Et oui, c'est très précis, donc même en mettant les sondes et tout ce qu'on veut dedans, si ton four se met à varier de température toutes les 5 minutes, tu resteras jamais à 80 pendant les 8 heures nécessaires à la cuisson du jambon. Et je ne vais pas passer mes 8 heures à regarder la température du four non plus. Donc,
d'accord. D'accord, donc tu as en fait testé, enfin, tu connais la cuisson lente de la viande alors du coup.
Alors le jambon, ouais, le jambon ça se cuit comme ça, le jambon au torchon il se cuit comme ça, mais la cuisson lente, oui, c'est un vieux pas. La première fois que je l'ai utilisé, ça devait être pour des épaules d'agneau, des trucs comme ça, ouais, ça fait longtemps.
Tu as récemment réussi plusieurs formes d'éclairs au chocolat, mais il paraît que tu n'aimes pas ça. Pourquoi persévérer?
Je n'aime pas quoi? Faire les éclairs?
Les éclairs au chocolat.
Mais c'est pas, j'aime pas les trucs sucrés en général. Donc
ah, c'est
pas...
étonnant ça.
Mais non, ben, c'est pas, il y a des gens qui ont le bec sucré, moi j'ai le bec salé, je suis pas...
Les éclairs salés alors du coup?
Ah, j'ai jamais testé, mais ceci dit, les éclairs tout le monde aime ça, donc là j'en fais, c'est pour faire plaisir. Je balance une photo et d'un seul coup, il y a tous les potes qui se pointent. C'est bien, oui. J'aime bien ça.
T'as script, tu m'envoies les photos. En privé.
Ah, mais après, il faut venir à Nîmes, ça fait loin. Hein.
Ah, mais c'est à côté, Nîmes, non?
Quand même, une petite trotte. Depuis Toulouse, c'est pas non plus tout à côté. Ah, quoi que maintenant, on est dans la même région.
Bah oui, maintenant, bah tout à fait, on est voisins, pratiquement.
Ouais.
T'es-tu déjà essayé à la soudure à plat de composants électroniques au four, genre carte mère de MacBook Pro 2011? C'est très pointu, hein, comme question.
Ouais, ouais, mais en fait, non. J'ai ma propre technique pour réparer les machines qui fonctionnent pas bien. Je les menace et de les taper, et si elles continuent à pas bien fonctionner, je les tape jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Ou qu'elles soient vraiment cassées, auquel cas je les jette.
Le geek a-t-il des goûts plus variés que les autres?
Je crois pas que ce soit une question de goût, mais de curiosité surtout. À partir du moment où tu es un hacker, où tu t'amuses à bricoler les objets, à les réparer depuis tout petit, à démonter les réveils quand tu étais gamin, et tu restes curieux, y compris dans la cuisine, qui est un truc tellement vaste que tu as tout le temps des choses à inventer, à bricoler, et voilà. Là, j'ai fait un jambon, c'est pas pour plaisir d'avoir du jambon fait maison. Il est pas mal, je suis très fier de mon jambon, mais...
Je vous envie.
Comment ?
J'adore le jambon.
Ouais, mais non, mais là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement d'avoir mon jambon, c'est de savoir comment on le fait.
Alors, comment on le fait ?
Oh, mais on s'en fiche. C'est le principe de savoir, une fois que j'ai réussi à faire un truc et à le reproduire deux, trois fois, après, je peux tout à fait aller au marché acheter du jambon. Mais au moins, je sais comment ça fonctionne. Tu comprends ? C'est la curiosité qui fait le truc. C'est comprendre comment ça marche. Le jambon, pendant des années, je l'ai acheté sous plastique comme tout le monde. Mmh. Et à un moment, je me dis, mais attends, comment ça marche ? Comment on fait ce truc-là ? Je veux comprendre, je veux savoir le faire. Donc après, comment on le fait ? Ben, on achète une cuisse de porc.
Oui.
Et on la découpe pour retirer les os. On fait des gros blocs de chair avec la couenne autour. En retirant ou non le gras, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Et chacun de ces blocs-là va être mis pendant un certain temps dans la saumure, une saumure avec quelques épices quand même, mais une saumure. Donc, là, selon les recettes, j'ai vu entre 5 jours pour un jambon de 4 kilos, et une autre recette me dit une semaine plus un jour par kilo. Donc là, typiquement, le dernier, je l'ai laissé 8 jours pour 4 kilos, donc. Et une fois que tu le sors de la saumure et que tu l'as laissé une journée à dessaler un peu, dans de l'eau que tu changes, là tu vas le cuire, je te dis, en cuisson lente, donc à 80 degrés dans un torchon, dans un bouillon de légumes.
Ah d'accord.
Voilà.
Au four ?
Au four, dans une cocotte, en tout cas dans un truc qui te permet de respecter les 80 degrés pendant 8 heures.
Ah oui.
Moi oui, effectivement, je l'ai mis au four dans une grosse cocotte. Mais on doit pouvoir le mettre sur un feu très faible si on fait attention, parce que faut pas. Le principe, c'est le même principe que les cuissons, c'est ne pas évaporer et que la graisse ne fonde pas, c'est le principe. Si la graisse de ton jambon disparaît, ça va plus ressembler tellement à du jambon là.
Et du coup, il est bon ce jambon?
Écoute, il est pas mal, mais je commence à avoir ma dose là. Donc je vais sans doute pas manger de sandwich au jambon ce soir, parce que là j'en ai trop eu.
Et c'est pas possible de le partager ?
Mais écoute, je l'ai sorti du four, c'était quoi, lundi je crois ? Donc un jambon de 4 kilos qui a beaucoup perdu à la cuisson, mais qui devait encore faire 3 bons kilos, il en reste 1 kilo ou 2 à peu près là. Et c'est pas moi qui ai tout mangé. Mais les potes passent et repartent avec du jambon. Voilà.
Ça, c'est magnifique.
C'est tout le temps comme ça.
Je vais me mettre. Je vais me mettre au jambon, maison. Que penses-tu de l'imprimante 3D pâtissière ?
Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. J'attends quand même. Le principe d'imprimer sa bouffe, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans un futur assez proche quand même. D'abord, ça existe plus ou moins déjà maintenant, il y a quelques exemples. Mais quand on commence à voir l'impression moléculaire au niveau moléculaire, on se dit que là, on va carrément pouvoir inventer des molécules de bouffe, quoi. Inventer des goûts carrément. Enfin, pas juste reproduire avec une imprimante 3D des choses qu'on sait déjà faire autrement, mais inventer d'autres choses, d'autres produits, d'autres goûts, d'autres saveurs. Là, on rentre dans un tout autre... Alors là, pour le coup, pour quelqu'un de curieux, c'est encore plus vaste que la cuisine déjà existante. Ça devient passionnant, le truc. On va voir, je sais pas, mais je pense que c'est pour assez bientôt, ça.
Oui. Oui, j'ai vu quelques exemples aussi. Pour l'instant, c'est vraiment un stade assez.
Ouais, mais quand ça existera, au lieu de vous balancer des photos de macarons, je vous imprime mes macarons directement chez vous. Je vous envoie le fichier d'impression du macaron.
Ah, ça c'est génial.
Mais voilà, ça peut être. On va enfin pouvoir s'envoyer de la bouffe par Internet. Enfin, moi, je trouve ça génial.
Ah, oui, mais ça manque de convivialité, du coup. Enfin, je veux dire.
Ouais, bah, t'es cuisinière, tu sais quand même que le côté convivial du truc, c'est surtout entre les convives que ça se passe. T'as tellement avec le cuistot. Le cuistot, il est tout le temps dans sa cuisine. Et quand il en sort, il est saturé d'odeurs, de bouffe, de trucs qu'il a goûté, il peut même plus manger.
Oui, ça c'est vrai. Ça.
Donc le côté convivial pour le cuistot, c'est toujours un peu limité. C'est plus le plaisir de voir les autres autour de la table, c'est bien s'amuser bien, et bien bouffer que de partager avec eux, c'est plus compliqué quand même.
Est-ce que les geeks cuisiniers ont leurs propres recettes, jargon et blagues?
Est-ce qu'ils ont leurs propres recettes? J'ai pas entendu la fin.
Jargon et blagues. Est-ce que les geeks cuisiniers ont leurs propres recettes? Enfin.
Encore une fois, en cuisine, je pense pas qu'il y ait moyen autrement de cuisiner autrement qu'en ayant ses propres recettes. Ça me...
Les blagues surtout. Enfin.
Je vois pas le rapport avec les blagues.
Bon.
Non, mais je pige pas la question, mais c'est pas grave.
Xavier, tu voulais dire quoi? Ah bon, bah ok.
C'est pas grave, passe à la suivante. Elle est nulle, non mais des fois il écrit des questions débiles, c'est pas grave.
En fait, il voulait savoir si les geeks cuisiniers avaient vraiment des blagues entre eux. Enfin, mais bon. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la prochaine question à une relation. Bon. Alors, quel est ton prochain projet de recette? Est-ce qu'elle sera postée sur GitHub?
Je ne poste pas mes recettes sur GitHub parce que GitHub c'est un truc pour les jeunes et j'y comprends pas grand chose.
Ah, moi non plus, hein, j'y comprends pas grand chose.
Voilà. Non, mais j'arrive à m'en servir quand je suis obligé, mais c'est vraiment pas mon truc. Non, quand on me demande une recette, je la balance sur PastBin en général. Parce que voilà, c'est. Même mes recettes à moi, je prends des notes de temps en temps. Et c'est des fichiers texte, tous séparés les uns des autres, pas du tout classés. Quand je veux retrouver une vieille recette, je sais pas, la recette de ma blanquette habituelle, par exemple, j'ouvre le fichier blanquette et oui. Je retrouve mes notes dedans. Comme mon père faisait, tu sais, des petits bouts de papier oui. Qui traînaient dans les bouquins, là, c'est la même chose, c'est des petits bouts de fichiers qui traînent dans mon répertoire, voilà. Ah. Donc, je pense pas que je sois très organisé. Après, mon prochain projet, qu'est-ce que j'ai comme projet, là? Je vais bientôt recevoir des gens très importants chez moi. Donc je vais recevoir Benjamin Bayard et Fabien Sirjean.
On les connaît.
Eh ben oui, ça ne me surprend pas. Et donc là, je me prépare à leur arrivée avec... j'ai ouvert tout un tas d'onglets avec des idées, de choses et de machins. Je sais par exemple que Fabien n'a pas mangé de tielles sétoises depuis très longtemps. C'est quelque chose que je sais très bien faire, donc je vais forcément lui faire des tielles.
Mais on veut des tielles, nous aussi.
Mais là, en plus, c'est pas beaucoup de boulot, parce que l'an dernier, j'ai fait des conserves de sauce.
Oui, mais il faut cuisiner... C'était quoi? C'est encore mieux, le poulpe?
Oui, le poulpe, ouais. Mais ça, voilà, la sauce, je l'ai faite l'an dernier, j'ai fait des conserves qui sont déjà là, quoi. Donc j'ai pas beaucoup de travail pour lui faire des tielles. Par contre, je l'ai vu parler de petits pâtés de pézenas, je crois, sur Twitter. Du coup, j'ai regardé ça, ça a l'air assez marrant. Ça.
Mais c'est quoi cette chose?
Ça ressemble au petit pâté nîmois, mais c'est pézenas.
Mais c'est quoi le petit pâté nîmois?
C'est une espèce de chose qu'ils ont inventé pour les touristes. Ah. Ce sont des petits pâtés en croûte. Non, mais c'est juste...
D'accord.
Les plats typiques nîmois sont assez limités. Hein. Oui. On a
la brandade.
Voilà. Et le gin.
Oui, c'est vrai.
Et c'est à peu près tout.
Et les fraises aussi, peut-être?
Les fraises Tagada, ouais. Ah. Et oui, c'est nîmois. Enfin, c'est tout proche de Nîmes, l'usine Haribo.
C'est fou.
Mais c'est un produit local, absolument.
Donc les vraies fraises, enfin les fraises fruits et les fraises tagada. Ok, c'est un auto.
Des fraises, il y en a partout en France, des vraies fraises, mais des tagada, c'est mieux. Ouais. Donc voilà, je recherche, je fouille internet pour cette recette des pâtés pézonas qui, eux, pour le coup, d'après ce que j'ai pu lire, existent depuis 3 siècles. Donc là, c'est des vrais plats régionaux, pas des trucs comme les pâtés nîmois qui ont une vingtaine d'années, même pas.
Oui, c'est comme le magret chez nous, en fait. Hein.
Voilà, ouais.
Qui existe depuis les années 70, enfin à la cuisson plutôt. Oui.
Je sais pas, je prévois ce genre de choses, je pense leur faire un poulet au citron marocain.
Il y a bataille parce que Dascritch, c'est aussi la spécialité de Dascritch. Enfin, le poulet au citron, la tagine.
Ah, c'est... Ouais, c'est un tagine. Ouais. Mais c'est pas le classique tagine citron-olive, là. On est plus dans un truc qui se bouffe avec les doigts dans le machin marocain. Je l'ai essayé une fois à Paris, ça a été un très gros succès. J'ai envie de le refaire, ça fait très longtemps. Et surtout, j'en avais pas eu, moi, parce que voilà, ça avait tellement été un tel succès qu'il n'y a pas eu de reste, et comme d'habitude, j'avais pas bouffé avec eux et j'avais pas goûté.
Et comme on dit, hein, les cuisiniers. Hein.
Voilà. Voilà, et aujourd'hui, j'ai testé une nouvelle recette sur commande d'un pote qui était la brioche de je sais plus quoi, sans jeunesse, un truc comme ça.
Ah, elle a quoi comme particularité, cette brioche ?
Saint-Génix. Elle est fourrée avec des pralines roses que j'ai fait ce matin au réveil.
D'accord, oui, j'ai vu cette photo de praline ce matin. Oui.
Et du coup, j'ai fait la brioche cet après-midi et le pote est déjà passé la prendre. Voilà.
Et elle a vite disparu, je crois, c'est ça ? Enfin, on l'imagine.
Ah ben, il est reparti avec. Hein. La brioche et du jambon, et voilà. Et...
Oui.
Et le reste de praline, parce que j'en avais fait beaucoup.
En fait, ils viennent prendre commande.
C'est des potes qui passent de temps en temps, on se fait des bouffes, machin. Et la dernière bouffe, ils me disaient, tiens, ça c'est un truc que j'ai pas mangé depuis tout petit, j'ai adoré ça, du coup j'en ai fait une. Voilà. Je note dans ma tête, et puis quand ça tombe, bah, tiens, en fait, j'ai fait ta brioche, tu peux passer la prendre. Ah, cool, voilà.
Allez-y. J'ai envie de formuler une demande, là. J'ai très envie d'une brioche. Ah, quoi ?
Non, stop.
Quoi, Xavier ? Ah, si, une petite brioche bien moelleuse à la mi-filante.
Ouais. Oh, ça, c'est facile, c'est de la brioche.
Ben oui, mais il y a des brioches et brioches. Je sais pas, je sais pas, peut-être que...
Oui, oui, non, mais il y a des brioches plus sèches que d'autres, c'est vrai.
Très moelleuses, humides, enfin... Avec des grains de sucre dessus.
On vient de dépasser le point Macha Béranger sur France Inter pour Géraldine sur Skyrock. On peut enchaîner sur la question, je vous prie.
Quelle question ? Est-ce que tu essayes d'autres cuisines est-ce que tu essayes d'autres cuisines occidentales, enfin, autres que la cuisine occidentale ?
Alors oui, souvent. Déjà parce que ma cuisine d'origine à moi, c'est la cuisine tunisienne juive. En tout cas, c'est celle que faisait mon père beaucoup. Donc forcément, j'ai déjà ça dans mes différents talents culinaires. C'est tout ce qui... Là, je reviens, il y a peu de temps, j'étais parti quelques jours en Tunisie avec mes sœurs. Mmh. Et il se trouve que j'avais commandé... En France, on ne trouve pas de boyau cachère. Or, bon, ma famille n'est pas du tout pratiquante, sauf un. On en a un qui reste pratiquant dans la famille. Et du coup, quand je vais à Tunis, j'essaie de commander des boyaux cachères pour pouvoir faire des merguez quand je reviens en France. Parce que les merguez tunisiens ne sont pas les mêmes épices que les merguez français.
D'accord.
Et là, je n'ai pas pu parce que le boucher cachère de Tunis n'a pas compris ma commande et quand je suis parti, il n'avait pas encore fini de découper son mouton. Mais mes sœurs partant un jour après moi m'ont ramené les boyaux, donc j'ai fait des merguez tunisoises, il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, j'ai des phases thaï, j'ai des phases... J'aime beaucoup la bouffe thaï, par exemple, c'est un truc que je fais très souvent, j'ai des phases comme ça. Donc je découvre hein, de temps en temps. La bouffe thaï, c'est venu d'un voyage de ma nièce en Thaïlande. Elle est revenue, elle a commencé à faire... C'est une très bonne cuisinière aussi, elle a fait des plats thaï. J'ai dit ça, il faut que j'apprenne, c'est trop génial, c'est absolument prodigieux comme cuisine. Et depuis, j'en fais souvent. Voilà, je reste très curieux. Et évidemment, tous les plats français. Bon. Par exemple, je ne sais pas, je ne connais que ça, le bœuf.
Le bœuf. Le bœuf à la ficelle.
Non.
Le bœuf loquac.
Non, oui, mais là, on repart dans la
vie. On repart dans le français.
Non. Ah, putain, mais. Le bourguignon, voilà.
Ah.
Il fallait que je repasse par le vin pour retrouver le nom. Faire un bourguignon, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et un jour, Benjamin Bayard, dont on parlait il y a 5 minutes, est arrivé dans ma petite cuisine de l'époque à Paris en me disant, je vais t'apprendre le bourguignon de ma grand-mère. Et il est venu avec tous les produits pour, la cocotte pour, l'écumoire de sa grand-mère avec laquelle il avait appris à faire le bourguignon, et il m'a montré, et il m'a donné la recette du bourguignon de sa grand-mère. Donc tu vois, comme ça, il y a plein de choses qui passent, y compris par la cuisine. Enfin, je te parle de ça, c'était il y a 20 ans, mais il n'empêche que de temps en temps, je refais un bourguignon pour Benjamin, parce que voilà, c'est notre plat commun, quoi. C'est le truc qui m'a appris.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau le partage.
Et la semaine dernière, il y avait l'Assemblée Générale de la Quadrature à Paris. Et comme à Tunis, une amie de mes sœurs, dont c'est la passion, qui a monté une association pour ça, fait le tour de toutes les vieilles cuisinières de Tunisie, de chaque région, pour essayer de retrouver des recettes qui sinon se perdent parce que la cuisine tunisienne devient un peu standardisée. Et donc elle essaie de retrouver tout ça et elle est venue nous donner un cours de couscous traditionnel, le truc de base.
Poisson ?
Non, traditionnel, c'est-à-dire le plus simple possible, celui qu'on fait vraiment, que font les grands-mères pour au quotidien quasiment. Donc là, elle nous a fait deux couscous, un couscous au poisson.
Oui, le fameux couscous au poisson.
Et un couscous au poulpe.
Ah, mais ça, on ne connaît pas, c'est rare ça.
Voilà, tu vois. Mais c'est pas tant là-dessus que je me suis basé. Par contre, je leur ai fait un couscous à la quadrature pour l'Assemblée Générale à chaque fois. Quand il y a une Assemblée Générale, c'est moi qui fais la bouffe. Et donc, j'ai fait un couscous en me basant sur les trucs qu'elle m'avait montrés à Tunis. Et c'est génial.
On a envie de venir la prochaine fois.
Ils ont été ravis, hein. Ça leur a beaucoup plu, là, visiblement. Ça les a marqués, ça.
Merci Laurent, merci pour cet échange. On est toujours intimidés et on sera ravis de vous recevoir à Toulouse pour un couscous, tiens, un couscous au poisson.
Pourquoi pas, ou alors passer à Nîmes, c'est plus facile pour moi je me déplace pas beaucoup, donc pour venir.
Allez, d'accord, voilà. Avec une brioche.
D'accord, avec une brioche et un couscous au poisson, ou alors une brioche au poisson peut-être.
Ah oui, pourquoi pas. Allez.
Pour le 1er avril, ça peut le faire.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci à vous.